Bonjour à tous, bienvenue sur le premier épisode du podcast Le Petit Quart. On est hyper content de vous retrouver aujourd'hui. L'émission Le Petit Quart, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça va être un rendez-vous bimensuel chaque dimanche de 19h à 21h où on va s'intéresser un petit peu au processus créatif de tout genre. Qu'est-ce qui fait qu'on organise un spectacle ? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à créer une œuvre d'art ? Qu'est-ce qui fait qu'un courant musical devient effectivement épique et légendaire ? On va essayer pour ça, à chaque émission, de recevoir des artistes de tout genre, de recevoir un peu des spécialistes du genre et d'essayer de comprendre un petit peu comment on en vient à créer et comment on en vient à créer quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Pour ce premier épisode, je suis hyper contente parce qu'on va s'intéresser à quelque chose de pas banal et de pas très commun, mais qui pourtant revient à fond à la mode. C'est l'Italo Disco. Alors peut-être que chez vous, vous faites un quoi ? L'Italo Disco ? Eh ben ouais, figurez-vous que j'ai avec moi un spécialiste de l'Italo Disco aujourd'hui, j'ai nommé Thibaut.
Salut.
Thibaut, il s'appelle comme ça. Alors c'est un DJ, c'est un DJ de talent. Il s'appelle comme ça à la scène comme dans la vie.
Ouais.
Voilà.
Thibaut, T-I-2-B-O.
Voilà.
C'est mon nom de DJ.
Et alors, croyez-le ou non, mais c'est le spécialiste de l'Italo Disco sur Montréal. Et on va essayer d'en parler un peu plus aujourd'hui. Et puis derrière, alors vous pouvez pas voir, mais derrière la vitre, il y a un petit bonhomme qui s'agite. C'est lui qui va faire la régie. Jay est à la fois chroniqueur et régisseur. Donc bah écoutez.
Ok.
On avait un tout petit souci technique. Excusez-nous, c'est le premier épisode et là ça y est, on l'entend.
Alors ça c'est que ça fait un mois qu'on n'a pas retouché un petit peu de.
Donc je
de
ne sais
loin.
Même pas si on t'a. Tu penses qu'on t'a entendu ? Je ne sais
je
même pas.
Je pense qu'on ne m'a pas du tout entendu.
Oh non, mais mon Dieu ! Je vous présente un homme quand même très très important dans cette émission. Représente-toi.
Eh bien, moi c'est Jay. Moi je m'occupe de la régie. Je m'occupe un petit peu d'aider à faire tourner cette émission qu'on lance tout juste. On lance tout juste et qui va être super intéressante pour rebondir sur un style que moi je dois bien avouer avoir assez peu écouté, l'Italo Disco. C'est quelque chose que. Mais par contre, vous allez voir en discutant, vous aussi, vous connaissez, vous avez déjà écouté, vous connaissez plein de morceaux. Ouais. Ça revient vraiment fort en ce moment et beaucoup de ces morceaux ont bercé l'enfance des gens nés dans les années 80-90. Vous en avez entendu obligatoirement.
Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Est-ce que Thibaut, tu veux lancer un petit peu une introduction, genre brièvement, qu'est-ce que c'est et.
Ouais. Donc, rapidement, sans rentrer trop dans les détails de l'histoire, c'est un style de musique qui est apparu en Italie début des années 80, fin des années 70. Caractérisé avec beaucoup de sons faits avec des synthétiseurs et puis des mélodies assez faciles, un rythme assez entraînant, des chanteurs souvent italiens qui chantent en anglais, une musique vraiment joyeuse, vacances, soleil, pas prise de tête.
Ouais, c'est ça. Ce qui est drôle aussi, c'est que c'est une musique, c'est un courant musical extrêmement court parce qu'on parle d'un courant musical qui a existé, enfin qui a été à son paroxysme entre 83 et 85 à peu près, 1983 et 1985, donc sur une durée extrêmement courte, qui a été très localisée parce qu'effectivement c'est né en Italie, ça s'est exporté en Allemagne.
Ouais, un petit peu dans le reste de l'Europe aussi,
ouais.
Mais c'est ça surtout, ouais, Italie-Allemagne, on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure.
Et ce qu'on va essayer de comprendre, c'est que c'est pourtant sur, enfin je veux dire le style a vraiment émergé en 3 ans et pourtant c'est devenu un style hyper influent, enfin un style d'influence
ouais,
pour
totalement.
La house après etc.
Ouais.
Donc c'est, on va essayer de comprendre et un peu
qu'on peut entendre encore aujourd'hui.
Exactement.
Dans pas mal d'endroits.
Ben oui, qui revient à la mode et donc ce qu'on aimerait on va essayer de comprendre aujourd'hui comment est-ce qu'un tel phénomène a pu émerger ? Effectivement, il y avait plusieurs points historiques qu'on aurait pu aborder. Déjà que c'était la fin du disco.
C'est ça, ouais. Mais pour commencer, oui, c'était la fin de la musique disco, surtout aux États-Unis. Donc, la fin des années 70, beaucoup de disco, surtout à New York. Les gens commencent à en avoir marre. Donc, il y a un homme, Giancarlo Tirotti. J'ai pas l'accent italien tout à fait.
Mais t'inquiète, au pire, Jay va pouvoir le. Tirotti!
Tirotti! Si vous avez besoin de quelqu'un pour faire un accent italien, vous me sonnez. Je m'excuse d'avance si je veux absolument pas offenser quiconque d'origine italienne.
On vous aime les Italiens.
Mais j'avoue que moi je. Mais vous voyez pas, mais c'est avec les mains, hein, souvent là. T'es là, t'es.
Et donc, oui, qu'est-ce qu'il a fait ce charmant
donc,
monsieur?
Lui, il était entrepreneur et il est allé. Il me semble qu'il travaillait dans le cinéma. Il s'est retrouvé à New York et là, on l'a emmené dans une boîte de nuit où on jouait beaucoup de musique disco. Et c'était pas encore énormément populaire en Europe, pas super populaire non plus en Italie. Et là, il a vu des DJ, il est vraiment allé dans une boîte de nuit, un peu comme une boîte de nuit comme on connaît maintenant. Et il a trouvé ça génial et il s'est dit « Ok, il faut que je ramène ça en Italie ». Et à ce moment-là, il a acheté une grosse boîte de nuit qui s'appelle la Baia degli Angeli et qui existe toujours, qui s'appelle maintenant la Baia Imperiale. Et donc ça, c'est un club sur la côte adriatique. Et mais j'ai juste, on peut décrire un petit peu les photos et à quoi ça ressemblait. Ça ressemble toujours un petit peu à ça, mais il y a vraiment... c'est vraiment grandiose, c'est vraiment immense. Il y a des piscines, un restaurant, une influence vraiment très kitsch, un peu gréco-romaine.
Qui caractérise le style aussi, on va en parler plus tard. Mais
ouais, exactement, avec vraiment des colonnes, etc. Enfin, c'est vraiment impressionnant comme endroit. Et c'est vraiment à la plage. Donc c'est là où beaucoup d'Italiens allaient en vacances. Et donc ils passaient leur été là-bas. Donc on s'imagine que c'était des journées plage, puis le soir... On marchait jusqu'à cette immense discothèque qui se trouvait juste à côté de la plage pour passer la soirée. Et c'est là qu'il y a des DJ qui venaient de New York qui sont arrivés avec leur vinyle disco pour les jouer dans cette discothèque.
Et oui, donc... parce que c'est vrai que c'était tout nouveau en Europe. Ça, on le dit, on le dit pas forcément, mais c'était tout nouveau en Europe. Les DJ, donc juste un DJ derrière une scène. Avant, on avait plutôt des bands de musiciens.
Ouais.
Et ça, c'était le début des émergences avec juste des DJ qui venaient avec leur vinyle et qui jouaient tous leurs disques toute la soirée, quoi. Qui avaient plus de.
Ouais. Bah, des DJ qui étaient créatifs, en fait, tout simplement.
Et puis plus de bands de musiciens, plus de musique.
Ouais, mais surtout qui n'enchaînaient pas simplement un disque après l'autre, tout simplement. Parce qu'il y en a eu quelques-uns, mais en effet, et qui commençaient à créer quelque chose.
Ouais.
Ouais. C'est ça.
C'est ça, hein.
Et il y avait avant aussi, les vinyles appartenaient à la boîte de nuit. Et donc le DJ arrivait et prenait les vinyles un à un. Ah, il était déjà dans la boîte de nuit, puisqu'il les jouait. Mais là, ce sont des DJ qui sont venus des États-Unis avec leurs vinyles à eux et qui les ont apportés, qui les ont joués et qu'on fait découvrir comme ça un petit peu à une grande partie d'Italie. La musique disco, et ça a super bien marché à la fin des années 70, c'est ça, pendant l'été, les gens ont vraiment adoré. Un petit détail aussi sur la boîte de nuit que j'ai vue, il y avait un ascenseur, et donc la boîte de nuit était sur plusieurs étages, et le DJ booth était dans un ascenseur, donc tout en vert. Donc le DJ pouvait passer d'un étage à l'autre pendant la soirée tout en jouant. Et j'ai trouvé que c'était un concept complètement fou. Alors je suis pas sûr que l'ascenseur existe toujours. C'était peut-être pas très safe, mais sur les photos de l'époque, ça avait l'air impressionnant.
Ah, ça devait être génial à reproduire, à garder en mémoire pour le prochain établissement. Ouais, j'avoue, ça pouvait être cool. Et c'est vrai qu'au niveau, si on rappelle un peu ce contexte historique, il y a effectivement... l'émergence d'un nouveau style, de nouveaux clubs avec un nouveau style de musique, une nouvelle manière de la jouer, etc. Mais il y avait aussi en Italie, je pense que ça se développait un peu partout en Europe dans les années 80, mais notamment en Italie avec l'émergence des premières radios privées. Il y avait eu un peu ça aussi, il y avait ça aussi un peu en France également. Mais les premières radios qui n'étaient pas contrôlées par l'État, et donc où vous étiez beaucoup plus libre de passer de l'underground, parce que oui, effectivement, je pense que tous ces nouveaux courants musicaux étaient un peu considérés comme des musiques underground, et du coup, surtout avec des sonorités électro à l'époque.
Ouais.
Et effectivement, il y avait ces premières radios-là à Milan où on était libre de passer de la musique outre-Atlantique, de passer un peu tout ce qu'on voulait. Et qui a permis effectivement de faire émerger un peu...
C'est ça, la démocratisation de cette musique-là.
Ouais.
Et donc, pour continuer sur l'histoire, au même moment, c'est l'arrivée des premiers synthétiseurs. Donc, qui ont été créés un peu pour remplacer les musiciens. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un son de guitare, un son de bass, un son de batterie avec des appareils complètement électroniques? Et donc, il y en a plusieurs à s'être essayé. Et au niveau des musiciens, personne n'a aimé, parce que le son n'avait rien à voir avec une guitare, le son n'avait rien à voir avec les instruments de musique.
En effet, c'est assez drôle d'ailleurs.
Classique.
De penser que c'était fait pour imiter des instruments. Et,
ouais.
C'était très mal imité.
Ah, c'était. Ouais, non, c'est devenu iconique par la suite et on a fait des sons très intéressants avec.
C'est ça.
Mais alors, en termes d'imitation d'instruments et. Ça pêchait
un peu comme toi avec l'accent italien. mais
attendez, c'est pas mon pire. Attendez qu'on fasse une émission sur j'ai toute un panel d'accents incroyable.
Mais oui, effectivement, et puis des choses plus abordables aussi, des bon alors ça restait cher dans ces années-là, mais effectivement des synthés un peu plus abordables où en fait tout le monde, je pense, pas tout le monde là, mais une bonne partie pouvait quand même plus y avoir accès. Et pouvait se permettre de se le procurer, quoi.
Oh, ouais. C'est ça. Et puis pour la production, c'était forcément moins cher que d'avoir un band au complet avec plein de musiciens. Mais donc ça a donné un son très intéressant. Il y a beaucoup de gens qui se sont penchés dessus à l'époque et qui se sont dit « Ah ben, c'est pas du tout un son qu'on a entendu avant, ça n'a rien à voir avec les instruments qu'on connaît, mais c'est quand même un son tout nouveau, un son vraiment futuristique. » Et voilà, ils se sont vraiment intéressés et se sont dit « Ok, on va utiliser toutes ces machines-là pour faire de la musique, ça va être notre propre musique. » Et donc c'est un peu comme ça que l'Italo Disco est né. C'est beaucoup de producteurs italiens qui ont utilisé ces synthétiseurs pour un peu imiter la musique disco qu'ils avaient entendue qui venait des États-Unis. Et donc
il y avait aussi pas mal d'influence les Anglais, je trouve, les Anglais sont très précurseurs parce qu'on l'avait, enfin tu le vois pour la house, la French touch, enfin les Anglais sont ultra influents sur plein de trucs. Et il y avait aussi t'as pas mal d'articles qui parlent de l'Italo disco. Effectivement, ils s'étaient un peu ils sont imprégnés de la disco, mais ils sont imprégnés aussi de toute la mouvance synth pop, new wave dans l'Angleterre à l'époque. Genre, si vous voyez pas trop ce que c'est genre Depeche Mode. Moi, c'est parce que c'est pas trop. Je peux pas vous citer non plus un milliard d'artistes, mais Depeche Mode, tout le monde connaît. Et effectivement, dans ces années-là, il y avait pareil sur les premiers prémices de l'électro sur synthétiseur. Et voilà, et c'est ce qui cartonnait à l'époque. Donc, je pense que les Italiens se sont dit aussi.
Exactement.
C'est cool à reproduire.
Oui, c'est ça. Et donc, ça a vraiment continué, ça a vraiment marché. Et mais le but, à ce moment-là, c'était quand même vraiment de créer des hits. Et donc, il y a énormément de producteurs qui se sont mis à produire énormément à cette période-là. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de musique qui est sortie. Et avec beaucoup de chanteurs. Et pour la petite anecdote, il y a des chanteurs qui avaient plusieurs alias, parce qu'il y avait tellement de musique, mais finalement pas beaucoup de chanteurs, et pour éviter de saturer toutes les sorties avec le même nom du même artiste, on avait des artistes qui avaient jusqu'à une dizaine de noms.
Et des noms très américains, parce que justement, ils disaient que c'était. Ils disaient qu'à l'époque, en fait, les noms américains. Parce que les Américains ont toujours été très bankable et. Et en fait, les prénoms italiens, ça s'exportait pas beaucoup. Et en fait, les chanteurs se sont mis à s'appeler AD.
Mike. C'est très drôle parce que caricatural dans le choix des noms.
Ouais, j'en ai quelques-uns. J'ai Ken Hunter, Max Ducati, Mike Freeman, DJ Energy, Holy Man.
Ouais, c'est fou, quoi. C'est vraiment les Américains. À l'époque, t'avais vraiment le American Dream, quoi. C'était hyper. Tu disais qu'avec un. Tu t'exportais mieux avec un nom américain, quoi. Tu vois, c'était fou. Parce que t'as pas mal d'acteurs aussi qui ont fait ça, tu vois. Parce qu'à l'époque, c'était l'American Dream, quoi.
Ouais, et donc les paroles, c'est ça, étaient aussi toujours chantées en anglais. Donc avec des paroles parfois un peu approximatives, un accent aussi approximatif. Mais tout en anglais, avec des noms anglais, comme ça, ça pouvait vraiment s'exporter.
Ouais, c'est ça, puis c'est très reconnaissable. C'est vraiment, ils ont fait vraiment ça à la sauce italienne, c'est-à-dire avec des sonorités très simples, beaucoup de kitsch, des paroles qui voulaient, voilà, beaucoup de chanteurs qui n'étaient pas vraiment chanteurs, des paroles assez naïves. L'important c'était surtout, comme tu disais, de produire beaucoup.
C'est ça. Et que ça marche, de faire
que ça marche,
de pouvoir faire danser les gens. Et puis beaucoup d'artistes qui faisaient juste une chanson aussi. Puis, ensuite on les oubliait. Mais les producteurs derrière, les maisons de disques, tout ça, ils ont fait énormément d'argent parce que ça envoyait. Donc, comme ça.
Et alors, du coup, comment on en est venu, Thibaut, à l'émergence de l'Italo Disco? Comment on en est venu à appeler ça l'Italo Disco? Je crois que tu avais des petites anecdotes là-dessus.
C'est un homme, Bernard Mikulski, un Allemand, donc là,
rien à voir.
qui était dans la musique, donc à une maison de disques. La maison de disques s'appelle. ZYX. Donc en Allemagne, la maison de disques existe toujours. Lui est mort en 1997 et je crois que c'est sa femme maintenant qui continue à gérer ça. Et donc lui à l'époque faisait pas du tout d'Italo Disco, mais a entendu un peu de musique Italo Disco. Et s'est dit, il faut absolument que j'ai ça sur mon label, il faut absolument que je le vende partout en Allemagne, je suis sûr que ça va marcher. Et donc il est allé à Disco Magic Records, qui est une maison de disques en Italie qui faisait beaucoup d'Italo Disco à l'époque. Et il a commencé à sortir des compilations avec toutes ces musiques-là. Et c'est là que s'est posé la question, comment on pourrait appeler ça? C'est de la disco, mais c'est pas de la disco américaine comme on connaît. C'est quelque chose de nouveau. Et il s'est dit tout bêtement, ça vient d'Italie, on va appeler ça de l'Italo Disco.
Ouais, c'est bête, Non, mais...
non, mais si tu pouvais être aussi simple, ouais. ça serait parfait. Non, mais en même temps, c'est peut-être simple, mais au moins c'est catchy. On retient très facilement.
C'est ça.
Et c'est resté. Donc au final, il a eu la bonne inspiration.
Ouais. Et c'est toujours écrit sur leur pochette, donc leur pochette sortait avec aussi un logo un peu kitsch, avec écrit compilation Italo Disco. Et ça a vraiment, vraiment marché. Et c'est ça qui a vraiment popularisé, je dirais, la musique Italo Disco à cette époque-là. Puis petit à petit, ils ont racheté pas mal de droits, et donc ils ont signé énormément d'artistes aussi sur ce label-là. Et voilà, donc si jamais ça vous intéresse, le label existe toujours, on peut toujours commander des vinyles chez eux.
C'est cool.
Donc ils refont, ils repressent des vinyles régulièrement. Donc il y a toute une partie du catalogue de l'époque qui est toujours disponible en ligne, donc on peut aller les acheter directement.
Avant que ce soit autant popularisé, il y avait quand même pas mal de choses qui étaient sorties tout début des années 80 voire années 70 parce que pour les gens qui nous écoutent là pour l'instant ça vous parle pas très bien, mais je vous ai dit que c'était des artistes ou même des chansons que vous connaissiez beaucoup, et notamment un dont on va vous passer la chanson. C'est Giorgio Moroder. Alors comme ça, encore une fois, ça vous dit peut-être rien, mais c'est le compositeur qui a fait I Feel Love de Donna Summer. Je vous ferai grâce de pas vous la chanter là maintenant. et il y a aussi une deuxième. Donc I Feel Love qui est sortie en 77, qui était vraiment très 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 innovant avec ce son synthé. Réécoutez-la vraiment, je vous invite à la réécouter. Vous allez entendre vraiment ce son de synthé derrière qui est très voilà, qui est très reconnaissable. Mais là, moi, j'ai envie de vous passer une chanson qui me tient un peu plus à cœur particulièrement, que j'aime beaucoup, beaucoup, et que j'ai redécouvert grâce à toi, Thibaut.
Ah.
Bah, parce qu'en faisant les recherches sur l'étalé au disco, et que j'adore vraiment, c'est la chanson The Chase de Giorgio Moroder, qui est peut-être un peu, qui est peut-être un peu parallèle à ce qu'on va voir après, mais qui est quand même... qui est quand même pour moi une chanson
Que vous avez dû entendre.
Voilà. Mm.
Je pense.
Voilà. Donc si vous voulez l'écouter
La voici.
Bon, je pense que du coup tout le monde a vu. Pour ceux qui connaissaient pas, je pense que là tout le monde derrière son ordinateur ou son smartphone se dit What? Mais elle est incroyable cette track. Mais bien sûr qu'elle est incroyable cette track. Bon sang. Et je crois que Thibaut, t'avais encore pour continuer sur Giorgio Moroder, t'avais des petites anecdotes
anecdotes sur l'histoire. Comment était faite la chanson I Feel Love avec Donna Summer? Donc Giorgio Moroder, un Italien, est parti enregistrer tout ça à Munich. Et à Munich, il y avait un grand studio avec beaucoup de synthétiseurs. Donc on était au début, c'est ça, des synthétiseurs. Ça prenait de la place, c'était quand même très cher et c'était aussi très très compliqué à utiliser. Donc toute la chanson a dû être faite en fait avec un ingénieur, Robbie Weddell. Et Giorgio Moroder a dit ensuite « J'aurais jamais pu faire la chanson sans lui ». Parce que à l'époque, les synthétiseurs ne gardaient pas la note pendant très longtemps. Et en fait, quand on les allumait, il y avait une période où il fallait attendre que toutes les pièces chauffent un petit peu avec le courant qui passe dans le synthétiseur. Puis au bout d'un moment, ça devenait un peu trop chaud. Et donc quand c'était trop chaud, les notes se déformaient complètement. Donc tout est fait avec plein de boutons pour que justement on puisse réajuster sans arrêt pendant la chanson pour que les notes restent justes. Mais ça, je pense qu'ils ont trouvé ça un peu compliqué, puis ça devait s'entendre un petit peu. Donc la chanson, qui dure quelque chose comme 6 minutes, je crois, a dû être enregistrée en bout de 30 secondes. Donc ils allumaient leur synthétiseur, ils enregistraient 30 secondes, ils éteignaient tout.
Oh wow.
Puis ils recommençaient.
Ah ouais, c'est...
30 secondes, parce que là, ils savaient que la note était bonne. Puis ils recommençaient. Et donc, ils ont fait ça sur 6 minutes. Et voilà, et puis ça c'est sorti pour faire un album avec Donna Summer où il faisait des chansons, plusieurs chansons de différentes époques. Et ça, cette chanson-là, quand ils l'ont faite, ils se sont dit ça va pas forcément marcher, on a juste fait une chanson normale. Et c'est sorti sur la face B donc, de l'album de l'époque. Donc la face A, c'était toujours le single, la chanson qui allait marcher. On savait que ça allait vendre et fonctionner. Et puis la face B, c'était un peu plus une autre chanson, un petit bonus. Mais finalement, tout le monde s'est mis à écouter la face B. Cette chanson-là est devenue extrêmement populaire. Et on en parlait juste tout à l'heure avec Gab, c'est impressionnant à quel point cette musique-là, on l'écoute toujours avec autant d'enthousiasme de nos jours, alors qu'elle date de 1977. Mm. Je l'ai entendue même en soirée à Montréal il y a un mois, et ben, toujours la même réception dans la foule, le même entrain, et voilà, c'est vraiment...
Une oui, c'est ça, c'est des chansons que tu peux très bien, qu'on écoute encore aujourd'hui, que tu peux très bien caler dans un set. C'est ça qui est assez fou de se dire, parce que 77, ça nous paraît, bon, ça dépend de l'âge de ceux qui nous écoutent, mais 77, ça nous paraît remonter un peu à loin. Et,
oui, 77, c'est le premier Star Wars au cinéma.
Ah,
qui,
bah, c'est ça.
Et qui a quand même beaucoup, beaucoup plus mal vieilli. Que la chanson de Donna Summer. Je suis désolée, je sais que toi t'es un grand fan de Star Wars.
Non, mais moi je sais que par exemple c'est une date que ça pose quoi, ça pose le contexte, parce que c'est loin 77 quand même. Et c'est vrai que comme on dit, moi je rentends ça aujourd'hui, j'ai envie de continuer à écouter ça a tout à fait sa place aujourd'hui pour revenir. Mmh. En force et en se documentant un petit peu là sur l'Italo Disco, c'est impressionnant de voir à quel point ces musiques peuvent être tout à fait encore d'actualité et contemporaines. Et on peut jouer avec, on peut mixer ça aujourd'hui. Et le fait que ça revienne, je trouve ça super intéressant, parce que moi, je trouve ça vraiment, vraiment joyeux comme musique, vraiment solaire un petit peu, hein, l'Italo Disco. Ça fait penser à... C'était pour ça, hein, je pense, que ça fait penser vraiment à la plage, ça fait penser à la...
Au soleil, à la chaleur. Mais parce que du coup ça rebondit sur un point, parce que maintenant qu'on a placé un contexte historique, on sait que ça a commencé, donc là ça a commencé à s'exporter un peu partout en Europe. Et ce qui a plu aussi, paradoxalement, c'était le côté très kitsch et le côté presque, enfin c'était presque risible quand je sais pas si les Italiens pensaient que ça allait aussi bien marcher à l'international. Et effectivement, presque le côté kitsch et risible du style, quoi.
Oui.
C'est vrai.
Donc effectivement, avec les sonorités un peu cheap au début, ça c'est vrai, comme tu disais, avec les synthétiseurs, donc des sons très très cheap qui plaisaient pas forcément, les gens critiquaient beaucoup parce que ça n'avait rien à voir, puis ça imitait très mal les instruments de musique. Faut savoir qu'aussi à l'époque, tous les Italiens copiaient sur les Américains, mais faut savoir que l'industrie musicale américaine, elle avait des milliers de dollars à dépenser dans leur production, ouais. Alors que les Italiens n'avaient pas beaucoup de sous pour le faire. C'est aussi pour ça. C'est aussi pour ça que les mélodies étaient faites sur un synthé très cheap et qu'elles avaient l'air de pas très bonne qualité. Et comme tu disais, le but c'était produire à fond pour à bas prix. Ça a donné ce côté.
Ouais, et puis les clips forcément aussi suivaient vraiment ce côté kitsch avec Ryan Paris, par exemple, à Dolce Vita, où on le voit habillé
devant
la Tour Eiffel, en train de chanter.
Oui. Ah, il est magnifique. Ce clip est magnifique. me fait rire parce que je l'ai re-regardé encore plus tard que ce matin. Oui. Et ouais, j'ai rigolé parce que c'est.
Mais oui. Ça a vraiment participé parce que c'est devenu vraiment l'empreinte. C'est devenu un peu l'empreinte de ce style musical, quoi. Des faux chanteurs qui étaient surtout beaux.
Il y a l'exemple de Dan Harrow qui revient souvent. Dan Harrow, si on le prononce pas à l'anglaise mais à l'italienne, ça se dit Denaro. Et ça veut dire argent. Donc, quand ils ont créé ce pseudonyme, ils se sont dit ça.
Dédale.
C'est ça, exactement. Et lui, était très beau physiquement. Donc, on l'a mis comme chanteur, mais incapable de chanter.
Oui,
donc,
c'est ça.
Donc, c'est un autre chanteur qui a fait toutes ses voix, etc. Et donc, lui, quand il allait sur scène, c'était vraiment le mannequin qui était là, puis qui faisait semblant de chanter. Et tout le monde le savait un petit peu, puis finalement, c'était pas si grave. tout le monde dansait quand même au son de ses chansons.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu comme le catch de la musique, quoi?
L'Italo Disco, c'est le catch de la musique. Mais ça marche de ouf.
C'est comme le catch, ça marche de fou.
Tout le monde sait. Analogie.
Tout le monde sait que c'est faux, mais on adore.
Ouais, c'est ça, exactement. Mais attends, Denaro, quand même, pour la petite anecdote, il a quand même fait la. Ça a tellement bien marché qu'il a fait la première de Dépêche Mode. Hein.
Donc, lui et sa voix de
lui et sa fausse. Non, mais tu vois, comme quoi.
Oui, non, mais c'est vrai, faut quand même noter
qu'il avait fait la première de Dépêche Mode à l'époque, ouais.
C'est parti loin quand même.
Mais t'as aussi ce côté, bah t'avais ce côté très kitsch, avec, comme tu dis, beaucoup le côté très romanesque, très Dolce Vita des Italiens. Et puis ça faisait un peu rêver aussi les Italiens à l'époque, enfin tu vois, c'est quand même. On a toujours un peu des clichés sur ce pays. Et puis, tu avais aussi tout le côté rétro-futuriste aussi, un peu dans les clips et dans l'image, ouais. Les pochettes d'albums aussi.
Ouais, ouais. Et puis, il y a tout un courant aussi qui s'appelait Space Synth, où des artistes comme Koto, Kano, Cyber People ont...
C'est que des noms en haut. Marrant, ça doit être...
ont sorti beaucoup de musique avec vraiment juste des synthés, puis très peu de paroles ou des paroles vraiment au vocodeur. Donc une voix vraiment déformée. Et puis à l'inverse du reste de l'Italo Disco, où il y a vraiment plus couplet-refrain, où c'était beaucoup moins ça. C'était plus la mélodie. Et ça, c'est vraiment un style d'Italo Disco. Ou dérivé de l'Italo Disco que j'apprécie énormément et qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on écoute maintenant, donc le futur de nos jours, le côté de l'Italo Disco de nos jours. Et c'est vrai que c'était un son du futur vraiment, et qui inspirait ça, la science-fiction, Star Wars, tout ça au même moment, l'espace, et donc c'était... Toute cette imagerie-là était réutilisée ensuite dans les clips et sur les pochettes d'albums.
Parce que autant le ce qui est drôle, c'est que l'Italo Disco a du coup après influencé la house et tout le courant French Touch, etc. House machin. Mais ça aurait pu peut-être que les clips aussi, parce que nous on a eu pas mal de après on a eu pas mal cette vibe, tu sais, avec les Daft Punk ou avec d'autres personnes qui ont commencé à faire des clips. Très futuriste, ça se trouve c'est aussi
c'est
inspiré un peu de ce qu'ils faisaient à l'époque aussi.
Je pense que oui, parce que l'Italo Disco avait clairement influencé les Daft Punk. Et c'est ça, je pense que ça ne m'étonnerait pas qu'ils se soient inspirés de cet esprit futuriste des synthétiseurs, de cette musique électronique qu'on n'avait pas du tout avant, puis qui venait d'arriver comme ça. Ouais,
parce que les clips sont quand même, comme disait Jay juste avant, faut remettre dans le contexte de l'époque. Et effectivement, les clips, la musique, tout était extrêmement nouveau, quoi. Tout était très visionnaire et ouais, voilà. Et donc tout ça était extrêmement stylisé, tout ça était extrêmement extrêmement novateur. C'est peut-être ça qui a participé à l'émergence du truc, quoi.
Oui, c'est vrai. Et puis ça jouait à fond justement sur ces. Mais ça allait de pair. Avec ses nouveaux sons, ses nouveaux visus, et c'est assez drôle parce qu'on en avait déjà parlé sur une émission précédente, sur un autre sujet plutôt. on avait déjà évoqué ça entre nous surtout ces styles de musicaux de ces époques-là, en fin de compte, des années 80, fin 80, début 90. Il y a beaucoup ce gros renouveau, hein, que ce soit à la fois graphique, que ce soit à la fois au niveau du son. Et l'un était vraiment lié avec l'autre, de toute façon.
Et puis une volonté de pas... Je ne sais pas, ça se trouve, ça n'a rien à voir, mais on était quand même... Il y avait quand même beaucoup de... c'était quand même une époque assez prospère, mais je pense que tu avais quand même pas mal de chanteurs. Pas mal de chanteurs engagés, pas mal de choses. L'Italo Disco, c'était aussi une envie de rien revendiquer. Et c'est ce que je trouve bien aussi avec la musique, c'est que des fois, on prête un peu des intentions à la musique sur Il faut dénoncer, il faut revendiquer, il faut dire des choses. Et effectivement, t'as aussi, t'as aussi ces gens qui disent, mais moi j'ai juste envie de faire de la musique
pour danser
et rien revendiquer, quoi. je veux juste faire de la musique pour me sentir bien à la plage et faire danser les gens.
Ah bah là,
c'était juste rappeler les vacances, tu vois.
Il y avait juste cette envie de faire danser les gens. Les paroles étaient, comme on a pu l'évoquer avant, kitsch, quand même assez à souhait. Était même assez chanté en anglais, tu disais Thibaut, hein, la quasi tout le temps,
c'est ça. Mais j'ai deux exemples de couplets que j'ai entendus récemment qui m'ont fait beaucoup rire.
Oui, parce qu'en fin de compte c'était un anglais assez pauvre finalement, pas très pas pauvre dans le sens mal parlé, mais je veux dire la thématique était un peu souvent la même, je suppose, tournait souvent peut-être autour de
C'est ça, de l'été, de l'amour,
de la fête, du flirt.
Pas énormément de fond. Et puis...
Mais comme on dit, on n'était pas là pour ça. On était là pour écouter les lignes de basse, on était là pour écouter les mélodies, les synthés. C'était ça avant tout.
Je ne sais pas qui écrivait les paroles, mais j'imagine qu'à cette époque-là, on n'avait pas accès forcément à une traduction instantanée. On ne pouvait pas demander à ChatGPT de nous aider avec les paroles, etc. Ce genre de choses. Donc, je pense qu'on essayait de trouver des rimes un petit peu avec des mots anglais. Et puis ensuite, on essayait de faire une phrase plus ou moins... qui avait plus ou moins de sens. On mettait ça dans un couplet, puis c'était chanté. Puis de toute façon, personne ne comprenait. Donc, je pense que ça fait un gros contraste, je pense, avec la synth-pop. Au Royaume-Uni, qui était pour le coup avec des artistes qui étaient beaucoup plus engagés et qui, j'imagine, eux savaient parler anglais, donc faisaient des chansons.
Pour des anglais, j'ai l'impression qu'ils vont dire quelque chose. Mais...
faisaient des chansons avec des couplets qui avaient vraiment du sens, et donc quand on les écoutait, c'était vraiment de la musique beaucoup plus engagée, beaucoup moins légère. Juste un exemple comme ça, j'ai écouté Fancy Lady of Ice l'autre jour. Et puis il y a un couplet qui dit: A lady of ice in a desert zone where a web of lies has turned to stone. A lady of ice with a painted smile, I should keep her warm just for a while. Ça rime, on dirait un poème.
Oui, c'est vrai.
Beau. Et si je traduis, ça dit une dame de glace dans une zone déserte, où un tissu de mensonge s'est transformé en pierre. Une dame de glace avec un sourire peint. Je devrais la réchauffer juste pour un moment.
C'est beau.
C'est beau, c'est beau.
C'est beau, mais ça ne veut rien dire.
Non, mais ils adoraient. Hein. Mais ouais, c'est génial.
Et donc, quand on l'entend en anglais et qu'on ne comprend pas, on se dit, ça rime, c'est des beaux mots. Puis après, on réfléchit, on se dit,
Mais ça, encore une fois, c'était vraiment pour l'exportation, parce que les Français ont fait ça un paquet de fois. Hein. Enfin, je veux dire, pour exporter les boys bands, ils faisaient chanter les boys bands en anglais. Sabrina, boys, la nana ne parle absolument pas anglais, tu vois. Oui. Et pourtant, ça a été un tube international, surtout parce qu'elle a montré ses seins dans le clip. Mais ils l'ont fait, ils l'ont fait chanter en anglais, et c'est vrai que ça s'exportait. Ça s'exportait beaucoup mieux. Et du coup, comment ça s'est exporté un petit peu à Montréal ? Comment ça s'est exporté à Montréal ? Comment ça se manifeste encore aujourd'hui à Montréal ? Parce que j'aimerais bien qu'on parle de comment ça se fait qu'il y a eu une espèce ça a toujours été plus ou moins là, mais il y a eu une espèce de revival dans les années 2000 et puis encore plus depuis 3-4 ans là maintenant. Comment t'expliques ça et puis comment ça se manifeste un petit peu maintenant?
Je pense que au même moment que tout ça se passait en Europe, il y a eu un peu la même chose aux États-Unis. Puis c'était un peu le futur de la disco, et ça s'appelait plus High Energy. Et le nom vient de Evelyn Thomas, qui a fait une chanson qui s'appelait High Energy.
Que je vous ferai grâce de ne pas chanter, mais que j'adore. Elle est incroyable, cette track aussi. Tout le monde la connaît, en plus.
Voilà, c'est ça, tout le monde la connaît. Et donc, tout ça, c'est un courant où on voulait rester toujours un peu dans la musique disco, mais utiliser vraiment les synthétiseurs. Il y avait The Flirts aussi, au même moment. qui chante une chanson qui s'appelle Passion. Et on voulait que un peu que ça aille un peu plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus de rythme, de plus en plus de la musique pour danser. Donc ça, c'est tout le courant High Energy. Il y en a eu à Montréal, Trans X, Living on Video, que je suis sûr beaucoup de gens connaissent aussi. Ça, ça vient de Montréal. Il y a un autre groupe qui s'appelle Lime, qui a fait une chanson qui s'appelle Angel Eyes, aussi à Montréal. Et puis, j'ai un ou deux vinyles de Diodati qui ont été enregistrés à Montréal. Donc, okay. On peut voir encore l'adresse du studio qui n'existe plus. Et donc, tout ça, ça se passait, c'est ça, en Amérique du Nord. Et je pense que ça a toujours un peu continué, cette histoire de synthé. Le style a changé. L'Italo disco d'Europe a été un peu réexporté par la suite aux États-Unis. Puis aux États-Unis, c'est là qu'on a commencé à créer la music house. Donc c'est vraiment l'influence de la music house. Et ça a continué après donc toutes les années 90. Puis ça a donné par la suite tout ce qui est plus music club comme on connaît maintenant avec la techno, etc. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent toujours aux sonorités des synthés, aux sonorités de base, un peu l'origine. Je ne sais pas si on pourrait dire l'origine de la musique électronique, mais définitivement une des origines de la musique électronique. Et personnellement, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, parce que je me suis intéressé à toute la musique récente italo-disco, et je me suis posé la question, je me suis dit, mais ok, mais d'où ça vient tout ça? Et donc c'est comme ça que vraiment je me suis replongé dans l'italo-disco de base, l'original. Et puis je me suis rendu compte que, en fait, en faisant ça, on pouvait vraiment tirer des parallèles. Et je pense que c'est ça, ça a marché, les gens se sont un peu lassés, mais jamais vraiment complètement. Là, ça fait suffisamment de temps qu'on n'en a pas entendu non-stop à la radio, comme ça a pu être le cas, je pense, au milieu des années 80. Et donc, ça revient. Je pense que c'est ça, ce qui s'est passé dans les années 2000, c'est revenu petit à petit. Et maintenant, ça revient en force.
On a toujours ce truc un peu cyclique, hein, de toute façon, c'est vrai que...
Mais là, quand même, ça revient en force depuis 3-4 ans, parce que t'as quand même... après, c'est quand même le berceau de la... Le berceau de l'Italo Disco, on a vu ça au... On a vu ça là depuis le début de l'émission, mais ça a quand même été l'Allemagne, du coup. Enfin, ça a été à la base l'Italie, mais ensuite, ça a été l'Allemagne. Et pareil, je pense que vous connaissez un peu tous le label Toytronix, qui est un énorme label Toytonix, pardon, qui a un énorme label de. Alors moi, je le connaissais surtout pour ce qu'ils produisaient en house plutôt,
ouais.
Mais ils ont et du coup, je me suis un peu intéressée un peu plus et ils produisent énormément d'italo disco. Ils sont même allés depuis 2-3 ans là, ils font les soirées Italomania. Et qui cartonnent, ils font ça à Berlin, Panorama Bar, Berghain, etc. Et dans toute l'Europe. Et donc, et c'est quand même un label énorme, des clubs qui sont ultra connus et qui organisent justement des soirées Italomania, qui sont remplies à chaque fois. Et donc,
ouais, c'est vrai.
Donc les gens adorent ça, quoi. Les gens répondent, ouais. Répondent présents.
Ah ouais, ouais, toujours. C'est ça. C'est aussi, je pense, l'envie d'écouter quelque chose de différent, c'est un nouveau style de musique électronique.
Beaucoup plus fun. Enfin, plus jovial, quoi.
Beaucoup plus jovial, oui, c'est ça, qui change...
Ouais, parce que c'est vrai qu'on avait fait un petit parallèle à un moment donné. Il y a eu... Ouais, l'art techno est très popularisé récemment, notamment via TikTok. C'est surtout via TikTok, les réseaux sociaux, que ça a touché la jeune génération très fort. Et en fin de compte, ça s'est très popularisé. Enfin, ça s'est popularisé vraiment rapidement partout. Et c'est une musique tendance sombre quand même qui est un peu, ouais, partout. Cet Italo disco là nous ramène justement de la gaieté, de la joie. De la joie, mesdames et messieurs, nous en avons tous besoin. Non, mais c'est vrai. Ouais. Ça prend un courant quand même. un contre-courant de ce que propose la techno en général et les musiques électroniques, bah malheureusement, ouais. Je veux dire mainstream maintenant, mais le mainstream est devenu ce qui ne l'était pas avant.
Ouais, c'est dark, ouais. Mais c'est ce que disaient les fondateurs de Slow Motion Records. Je pense que tu connais Thibaut, c'est, ouais. C'est un label italien très connu. Moi, je le connaissais pas avant, mais il est très connu. Ils font les soirées Slow Motion Records qui s'exportent un peu dans toute l'Europe et tout. Et c'est un label italien d'Italo Disco qui, justement, est très influent. Et voilà, eux, ce qu'ils disaient, c'est que c'était parce qu'on leur a demandé pendant l'interview comment vous expliquez le retour de l'Italo Disco. Eux, ils disaient qu'effectivement, c'était une musique qui a toujours continué à être jouée dans les stations balnéaires italiennes, que ça n'a jamais arrêté d'être joué. Et qu'en fait, ils pouvaient expliquer ça par le tourisme de masse. Il y avait énormément de gens maintenant, beaucoup plus de gens qui venaient dans les stations balnéaires l'été et qui du coup se disaient c'est vachement bien comme c'est vachement bien comme style de musique, ça fait penser à l'été, tout ça. Mais voilà, elle disait qu'il y avait toujours eu un peu ça, et que justement pour les Italiens c'était assez ringard, que c'était vraiment joué dans les petits clubs de stations balnéaires, que eux pensaient pas, enfin pour eux c'était pas incroyable.
C'est ça, ils ont dû faire un peu une overdose. On entend toujours les mêmes musiques à chaque fois qu'ils sortent.
Bah ouais, mais voilà ce que je comprends. Et que même eux s'expliquaient pas le succès.
Non.
Le succès qu'on connaît aujourd'hui, quoi.
C'est vrai, tout à fait. Ils reconnaissaient pas et ça les faisait. Oui, ça les fait me sourire. Ça les fait me sourire que ce soit plus apprécié quasiment en dehors de l'Italie qu'en Italie, même. C'est toujours assez drôle.
Bah ouais, non, c'est clair. Mais, et du coup, bah là, je vais te poser une question un peu plus personnelle. Thibaut, qu'est-ce qui, toi, t'a plu dans ce style? Parce que t'es quand même un DJ qui s'est un peu spécialisé là-dedans. On parlera un petit peu de tes projets après, parce que tu t'es vraiment un passionné par ça, tu t'es beaucoup intéressé à l'histoire, tu vas nous en parler, mais voilà, tu comptes organiser bientôt des soirées autour de ça pour que Montréal puisse découvrir l'Italo Disco, tu vois. Qu'est-ce qui, toi, te passionne là-dedans? Qu'est-ce qui te plaît? Comment t'es tombé dedans?
Comment je suis tombé dedans? Ah, c'est une bonne question. J'ai toujours beaucoup aimé la musique électronique de manière assez large. Ça fait très longtemps que je sors régulièrement dans des soirées un peu plus techno, mais... musique électronique de manière large. Et j'ai toujours aimé un petit peu la disco. Et j'en ai jamais trop écouté, mais à chaque fois que j'en entends un petit peu, je me dis « Ah, ça, c'est quand même vraiment bien. » Il y a un côté joyeux, c'est ça. Il y a un côté de mélodie. Il y a un côté mélodique qui me plaît énormément. Et que je pense que dans beaucoup de soirées techno, plus techno industrielle, ben là, on n'a plus vraiment de mélodie. Et j'aime ça, mais... ça manque. Moi, j'aime bien quand il y a une petite mélodie joyeuse au synthé derrière, tout le temps. Et c'est vraiment ça qui m'a plu. Et donc, j'ai commencé à mixer, c'est ça, pendant la pandémie. J'écoutais plusieurs DJ, j'écoutais plusieurs sets, un peu à droite, à gauche, etc. Puis un jour, je suis tombé sur un set de Cormac, qui a joué donc un DJ basé à Berlin, qui fait depuis longtemps beaucoup de musique italo-disco. Et j'ai adoré son set. Et là, je me suis dit, ah mon Dieu, c'est vraiment un style de musique que je connaissais pas, que j'avais jamais entendu avant. Et je me suis dit, c'est vraiment la musique disco, mais produite un peu au goût du jour. Donc, on a enlevé les paroles, on a mis une bass plus répétitive, des mélodies, donc toujours des mélodies au synthé, que j'aime beaucoup. Peut-être un peu plus répétitive, mais vraiment... même esprit que la disco que je connaissais, la disco que j'avais entendue, qui me plaisait énormément. Et donc en fait comme ça, j'ai tout de suite accroché avec ce style de musique là, et c'est comme ça que je me suis mis à écouter d'autres DJ qui jouaient ce genre de musique là, m'intéresser au label, de regarder toutes les sorties, puis en fait j'ai été vraiment super surpris de voir à quel point il y avait énormément de musique aussi de ce style-là qui sortait, et qu'il y avait toujours des gens qui étaient passionnés chez eux avec, ou dans leur studio avec plein de vieux synthés, et puis qui les faisaient marcher tous ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine, c'est plein de claviers dans un studio, puisqu'ils font tous un son différent, et on les met tous ensemble, et on est capable d'avoir une vraie musique.
Il prêche pour ta paroisse, Jay. Parce que Jay me dit toujours non, mais tu comprends, j'ai besoin de plein de machines parce qu'elles font toutes un son différent. Il est en train de prêcher pour ta paroisse.
Oui, c'est très gentil parce que on a tout le temps l'impression qu'on en a jamais assez.
C'est ça.
On en achète une et puis on se dit mais
il me manque ça.
Alors que bon, on va s'avouer, des fois c'est juste un tout petit élément. Mais bon, ça fait tout.
Et je parlais à quelqu'un récemment qui est... Donc je fais pas de production encore. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire dans le futur. Mais qui me disait qu'il avait commencé juste sur son ordinateur, comme tout le monde. Et puis qu'il avait commencé par acheter un synthé, puis un deuxième. Puis il m'a dit, t'en achètes deux, puis tu peux plus t'arrêter. c'est vraiment quelque chose, tu dis, ah, mais si j'avais ce troisième là, je pourrais faire des sons un peu différents. Et puis un quatrième. Et puis il m'a dit, ça commence comme ça. Puis c'est comme ça que tu finis dans un studio rempli de synthé du sol au plafond. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, je dirais, ce qui m'a attiré, c'est le côté joyeux, les synthés, mais tout en gardant cet esprit vraiment de musique électronique qui peut être joué dans un club sur lequel on peut danser. Italo Disco, je trouve ça intéressant parce que c'est aussi de la musique, il y a toute une partie, ça peut vraiment être séparé en parties un peu plus énervées pour danser dans un club noir. Avec des lasers, mais il y a une partie aussi plus, beaucoup plus relaxe qu'on peut jouer dans un après-midi, dans un bar à cocktail ou ce genre de choses. Et où on n'est pas du tout obligé de danser, on peut juste écouter. Et je trouvais ça intéressant aussi de pouvoir faire toutes ces deux styles-là avec le même style de musique.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, toi, pour la suite un petit peu des choses, toi, t'aimerais un peu promouvoir ce genre musical à Montréal. Parce que là, ça fait très longtemps. Bah, t'es français, mais ça fait très longtemps que tu vis à Montréal.
Ça fait 3 ans que je suis à Montréal. Donc,
mal renseigné.
Super longtemps. et puis, c'est ça. J'ai vraiment commencé à me mettre à mixer il y a 2 ans, je dirais, quelque chose comme ça. Avant, c'était un peu on and off. Puis avec le déménagement, tout ça, j'ai un peu laissé ça. Depuis, je me suis vraiment remis. Et oui, c'est ça, moi j'aimerais beaucoup. Je trouve que ça manque.
Qu'est-ce qu'il y a sur Montréal en Italo Disco? Pas grand-chose.
À Montréal. De plus en plus, je suis allé voir Kendall, Al-Assad, un autre artiste, Pablo Bozzi. Il y a.
Le Système, non? Qui fait un peu de soirée Italo Disco? Ou même pas du tout, non? Peut-être pas.
Système, il y en a eu aussi, mais c'est rien de régulier. Vino Disco, il y en a aussi.
Ok. Ça va bien avec leur vibe.
Il y a clairement beaucoup d'endroits dans lesquels on peut aller pour en écouter, mais c'est juste pas très régulier.
Ok.
Donc, voilà. Par exemple, ce mois-ci, j'ai fait plusieurs soirées le mois dernier, mais par exemple, ce mois-ci, je suis pas sûr d'avoir vu une soirée Italo Disco passer, par exemple.
Ok.
Et donc, c'est ça, c'est vraiment un style que j'aimerais mettre à nouveau de l'avant à Montréal. Et donc, j'aimerais, c'est ça, beaucoup organiser des soirées avec une partie Italo Disco. Il y a un style de musique Dark Disco dont on n'a pas encore parlé, qui est aussi assez à la mode en ce moment et qui a des influences disco, italo-disco, mais un peu plus dark.
Pour ceux qui n'ont pas compris, il vient de lâcher un gros indice sur le thème de la seconde émission.
C'est ça, dont on parlera plus tard, mais avec des influences plus cold wave, dark wave. Voilà, et donc tout ça c'est lié, et le point commun, je dirais, c'est peut-être musique électronique avec des synthétiseurs. Et il y a aussi une scène à Montréal, mais c'est ça, plus cold wave, dark wave, un peu plus post-punk. Avec aussi des artistes qui font des sons avec des synthétiseurs qui sont finalement proches de l'Italo Disco ou de certains sons de l'Italo Disco. Et donc, moi, c'est ça, c'est ce que j'aimerais vraiment organiser de manière plus régulière, sont des soirées avec une partie plus Italo Disco, une partie un peu plus Dark Disco. Si possible, avoir des lives, donc des personnes c'est ça, qui feraient leur musique avec leur synthé live. Et donc, un mélange de DJ, de live.
Ah oui, parce que du coup, tu dois avoir des DJ qui font du live sur l'Italo Disco aussi, ouais.
Ouais, c'est ça.
Ah, ça doit être...
Ça prend du matériel, beaucoup de synthé, mais j'ai vu déjà des gens à Montréal. Je suis allé à une soirée régulière qui s'appelle Cerise Noire, à Notre-Dame-des-Quilles, Et c'est ça, là j'ai vu deux actes live qui étaient vraiment très bons, avec ben, c'est ça, des synthés, une voix déformée, plein de pédales, etc. pour un peu ce style-là, c'est ça, pour déformer la voix, déformer les sons. Donc si je pouvais organiser, c'est ça, des soirées régulières, ça me plairait énormément. Donc ben, peut-être un appel à projet, si vous êtes DJ, si vous êtes artiste et que ce genre de style-là vous plaît, mais contactez-moi sur Instagram et puis on pourra voir pour organiser ce genre de soirée ensemble.
Mais ça, c'est un très bel appel à projet, ouais, parce que je pense que t'as plein de gens peut-être qui trouvent pas... Ouais, bah, comme toi, quoi, qui trouve pas forcément des soirées.
C'est ça, c'est dur. Ouais. Et puis de rencontrer des gens avec qui organiser quelque chose sur le même style musical, il y en a pas, parce que c'est, il y a pas énormément de DJ qui font ça à Montréal, ou que c'est des scènes un petit peu différentes. La scène,
les gens auront peut-être peur de pas croiser le public, mais je pense que le public est là. Hein. Je pense que le public est prêt, ouais, à découvrir. T'as peut-être, clairement, aussi des gens, parce que c'est vrai que c'est bien plus facile d'organiser une soirée techno. Tu sais que c'est tellement populaire, tu sais que tout de, ouais, suite tu vas avoir un public. Les choses plus niches, c'est un peu. Des fois, t'as un peu plus de mal, quoi.
C'est un peu plus dur, c'est sûr, mais. Mais je pense que c'est comme tout, tu commences petit, puis bah, petit à petit, si c'est régulier, les gens vont continuer à venir.
Ouais.
Donc c'est sûr qu'il n'y aura pas autant de public qu'une grosse soirée techno très populaire, mais c'est pas plus mal.
Ouais. Bah, après, déjà, on a la chance que Montréal,
il y a
de quoi faire, c'est quand même éclectique. Ouais. On pourrait se trouver dans une ville quand même qui offrirait beaucoup moins.
Ouais.
Et où là, carrément, le concept même de s'imaginer faire une soirée italo disco, waouh,
c'est ça.
Ça serait compliqué. Je pense qu'ici, tu peux avoir le public. C'est vrai que bon, il faut communiquer peut-être dessus.
Ou... Ouais, mais je pense qu'à Montréal, il y a clairement moyen. C'est vraiment une ville qui a beaucoup d'offres au niveau des soirées, au niveau des styles musicaux, etc. Donc voilà, le futur pour moi.
Bah ouais. Ben, on te souhaite que ça réussisse. Alors moi, je serai la première à venir.
Oui.
Moi, je serai la première à venir à ces soirées. Non, mais c'est vrai que moi, grâce à toi, Thibaut, on a quand même découvert ce style.
Ça fait vraiment plaisir.
Oui, parce que j'avais des pour la petite anecdote. Moi, j'avais des copains. Alors, je sais pas s'ils vont nous écouter, nous écouter ce soir, mais écouter l'émission. Mais voilà, Johan et Dimitri, si vous passez par là, c'est eux qui c'est eux qui mixaient ça en me disant, ils mixaient ça toujours en début de soirée en me disant mais c'est génial, c'est super. Moi j'avoue que j'avais du mal, mais tu sais, tu parlais un peu de je sais pas si t'en as parlé ou si c'était dans tes notes, mais tu parlais de Jennifer Cardini. Eux étaient, ouais, hyper fans de Jennifer Cardini. C'est dommage, on n'est pas trop passé dessus, mais c'est une des DJ, parce que,
ouais,
même moi je la connaissais, c'est une des DJ quand même qui est, bah, elle est hyper influente, elle passe quand même
très connue. Bah, elle est venue à Montréal deux fois. Ouais, depuis que je suis là, je crois.
Elle était passée au Nuit Sonore, à la Time Warp. Enfin, c'est vraiment, ouais, une fille,
ah, oui,
qui est super connue, ouais, quoi.
Elle en a fait, ben, c'est ça, énormément. Et donc, oui, ça fait partie des DJ que j'ai découvert en même temps que Cormac. Et puis, par la suite, le label Rythmo Fatal. D'autres labels, le label Bordello à Parigi aussi, qui est basé à Amsterdam, qui a énormément d'Italo Disco. Et oui, c'est ça, ça fait vraiment... Il y a vraiment beaucoup d'artistes italo-disco en Europe, je pense.
Insoupçonnés, ouais.
Et voilà.
Ou alors les gens ne savent pas forcément...
Ouais.
Ils mettent pas forcément un style sur un nom, peut-être aussi.
C'est ça. Et voilà, mais c'est pas aussi... C'est des artistes beaucoup qui restent en Europe et qui ne viennent pas toujours jusqu'à Montréal. Je sais qu'il y en a beaucoup au Mexique aussi de l'italo-disco.
Ok. Bah parce que ça va bien aussi et... avec le côté balnéaire et le côté... Non, mais ça doit être
ça
doit
doute,
jouer,
ouais,
aussi.
Ouais.
Hein.
Voilà, donc je pense qu'au bout d'un moment, ça va sûrement se démocratiser un peu plus à Montréal. Il va sûrement y avoir des plus gros artistes italo-disco qui vont venir petit à petit.
Que tu bookeras bientôt, on espère.
Ah ouais, ce serait bien. Ouais.
Ben, en tout cas, merci beaucoup, parce que je vois oui, que l'heure, elle tourne. On aurait, okay, pu continuer à parler des heures, parce que là, je vois qu'on a même été relancé sur un sujet et tout. C'est hyper intéressant. C'est... Voilà, merci d'avoir...
merci
d'être passé,
merci
de nous avoir fait partager, de profiter de ton expertise. Tu nous as fait l'honneur de nous avoir préparé un set aussi également.
Oui.
Hybride vinyle et moi ça me fait toujours un effet fou le vinyle. Hybride vinyle et digital. Donc si tu veux je te laisse aller t'installer Thibaut puis voilà, merci beaucoup.
Ouais, merci Thibaut.
Ouais, ben merci beaucoup.
Super intéressant.
Et puis, j'espère que ça vous a plu le premier épisode. J'espère qu'on a su vous intéresser. Merci beaucoup Jay à la technique. T'as été formidable.
Le petit couac du début, mais bon.
J'espère
qu'on va déjà l'oublier.
Mais oui, j'espère qu'on vous a donné envie d'aller voir, d'aller découvrir un peu plus en profondeur ce style. On vous remercie de nous avoir écoutés et puis on se retrouve dans 15 jours. Alors. Thibaut sera déjà reparti en France, donc il vous a tout à l'heure il vous a un peu spoilé le second épisode qu'il a coécrit avec nous, donc ça sera début janvier, ça sera sur la Dark Disco, et puis nous on revient dans 15 jours pour un petit épisode inédit, et puis en attendant on se retrouve sur les réseaux. Je vous fais des énormes bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Plein de musique. Et puis, je vous dis à très vite. Allez, bye bye.
À
ciao.
Très vite.
Bonne soirée.
Ciao. Bye bye.